Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Du Grain à Moudre. Ce soir, Parcoursup, plus de peur que de mal. Plus que quelques jours avant la fin de la procédure Parcoursup, celle-ci s'achève vendredi. En croire le ministère de l'Enseignement supérieur, ils ne sont plus qu'une petite minorité à être encore dans l'incertitude. Moins de 2500 bacheliers qui se demandent encore où ils vont effectuer leur première année d'études supérieures. 2500 auxquels il faut ajouter celles et ceux qui, déjà inscrits en première année l'an dernier, sont dans l'attente d'une réorientation. Alors à regarder les chiffres, on peut faire le constat qu'il y a du mieux par rapport à la rentrée précédente, marquée par les procédures de tirage au sort qui avaient eu raison du dispositif APB. En tout cas du mieux sur le plan quantitatif, car sur le plan qualitatif, l'été n'a pas atténué les critiques à l'égard de Parcoursup. Ses contempteurs dénoncent un dispositif qui favorise la ségrégation géographique et sociale, les élèves des établissements les mieux cotés étant favorisés par le processus de sélection. À l'inverse, ses partisans y voient un outil de lutte contre les inégalités, favorisé notamment par l'absence de hiérarchisation des choix en début de procédure. Alors Parcoursup, plus de peur que de mal. C'est la question du soir que nous allons poser à quatre invités. Louis Boyard, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes le président de l'UNEL, l'Union Nationale Lycéenne, qui vient de s'associer notamment à l'UNEF pour lancer une plateforme titulée SOS Inscription
avec
pour
la
venir
FCPE voilà, aussi.
Et la FCPE et le Syndicat des Avocats de France, le SAF. On aura l'occasion d'en discuter. Pour discuter avec vous, Anne-Lise Neff, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes maître de conférence en histoire médiévale à l'Université Paris 1 Panthéon Sorbonne. Vous allez notamment nous raconter comment vous avez mis en application ou pas justement le dispositif Parcoursup. Je précise que et Louis Bouillard et vous, Anne-Lise Neff, êtes plutôt hostiles à ce dispositif.
C'est vrai.
Contrairement à Jimmy Losfeld, bonsoir.
Bonsoir.
Président de la FAGE, Fédération des Associations Générales Étudiantes, qui vient de publier, enfin c'était il y a 4-5 jours, un communiqué pour noter notamment des avancées en matière d'égalité des chances. Et puis notre quatrième invité, François Vatin, bonsoir.
Bonsoir.
Professeur de sociologie du travail et de sociologie économique à l'Université Paris-Nanterre. Et vous êtes membre du comité de suivi de la loi OR. OR, je le rappelle, pour orientation et réussite des étudiants. Alors, ce soir, je pense qu'on va avant tout, enfin surtout, parler d'un bilan, disons, qualitatif de ce parcours sup, qui n'est pas encore tout à fait au bout. Je disais, il reste encore 5 jours, mais je voudrais quand même qu'on commence pour le quantitatif, pour voir si on peut quand même trouver des points d'accord sur les chiffres, les grands chiffres qui sont donnés. Je le disais, donc Frédéric Vidal, vendredi dernier, la ministre de l'Enseignement supérieur, qui parle de moins de 2500 bacheliers encore en recherche d'une place dans le supérieur. Est-ce que dans le cadre d'ailleurs du comité de suivi de la loi OR, ce sont des chiffres que vous suivez de près, François Vatin?
Ah bon, moi, c'est des chiffres que j'ai suivis effectivement depuis le début, puisque j'ai essayé de regarder la dynamique de Parcoursup. Ce qui apparaît très clairement, en fait, contrairement à l'idée qu'on aurait pu s'en faire au début, c'est que, en gros, les choses étaient à peu près réglées dans les 15 jours. Ça a été extrêmement rapide. Alors ensuite, effectivement, on a deux cas de figure qui sont présentés. D'une part, ceux qui avaient une proposition qui était conforme à leur liste de choix, mais qui restaient en attente pour d'autres propositions. Et cette population a stagné assez longtemps. Et puis, par ailleurs, effectivement, la question qui s'est posée de ce que le ministère a appelé, après la mise en place de la seconde phase de Parcoursup, les inactifs, c'est-à-dire de gens qui n'avaient pas réagi, qui n'avaient pas fait appel aux commissions rectorales et qui n'avaient pas non plus fait de demande dans le cadre de la seconde phase de Parcoursup qui s'est ouverte en juillet. Alors, donc le problème, c'est effectivement l'interprétation de ces deux données. En gros, ce qui s'est passé, c'est que on voit bien que des gens ont cherché jusqu'au bout à espérer une solution supérieure à celle qui leur était proposée. Donc ça, c'est le problème de ceux qui avaient deux propositions.
Aujourd'hui, c'est réglé ? pour vous?
Alors, aujourd'hui, c'est réglé. Là, pour le moment, on n'a pas les données là-dessus, mais c'est réglé de fait. C'est-à-dire qu'une proposition leur a été faite, c'est-à-dire que dans le cadre du système antérieur d'APB, ils auraient été affectés de fait, immédiatement, si vous voulez. Donc là, ils sont restés tardivement, mais je pense qu'aujourd'hui, ces gens-là sont inscrits, effectivement.
Louis Boyard, est-ce qu'à l'UNL, on partage ce point de vue? Ce point de vue, en tout cas, cette analyse.
Ce que je peux partager, c'est que quand on a un professeur qui nous dit que ça a été réglé en 15 jours pour une plateforme qui devait être plus humaine, là j'en vois la preuve que non. C'est des dossiers qui ont été triés à la volée extrêmement rapidement, et c'est pour ça qu'aujourd'hui on se retrouve dans une situation qui est même pire que celle qu'on avait prévue. Je rappelle, on a 50 000 lycéens inactifs qui ne répondent plus aux sollicitations du rectorat. Il faut se demander pourquoi. La plupart, ce sont des élèves qui ont tout simplement arrêté d'ouvrir Parcoursup parce que la pression est extrêmement forte. Je rappelle qu'on parle quand même de place à l'université. L'université, les 3 ou 5 années de licence qu'on fait, ça détermine les 50 prochaines années de notre vie. Ce sont des gens qui ont vu les portes de leur avenir se faire fermer le 22 mai et qui ont continué à galérer pendant des mois et des mois. Et aujourd'hui, on a un gouvernement qui est en train de les culpabiliser et de les appeler les inactifs.
Donc les chiffres qui sont donnés aujourd'hui par le ministère ne rendent pas compte de la totalité des candidats qui ont été mis de côté, qui n'apparaissent plus du coup dans les statistiques, c'est ça, Louis Boyard ?
Absolument pas. Et maintenant, on peut aussi prendre les gens qui ont démissionné de la plateforme pour partir dans le privé ou qui ont juste totalement arrêté. On est autour de 150 000. Je vous prends les inactifs et je vous prends les gens qui sont partis dans le privé. On est à 200 000 sur 800 000 candidats. Ça veut dire qu'un quart des lycéens qui se sont inscrits sur Parcoursup, qui s'étaient inscrits en ayant un espoir que ça fonctionne, ont été déçus. On parle de un quart. Et ça, c'est pas un chiffre dont le gouvernement ou les organisations qui l'ont soutenu peuvent se vanter.
Alors, je poursuis mon tour de table, hein, Jimmy Losfeld à la FAGE.
Oui, bah écoutez, moi, j'entends beaucoup de choses et malheureusement j'entends aussi beaucoup de caricatures et c'est dommage parce qu'il faut qu'on puisse tirer un bilan objectif de la plateforme. On n'a pas tous les chiffres aujourd'hui, c'est important de le préciser. Normalement, ils devraient être communiqués d'ici la fin du mois, mais on a aujourd'hui un certain nombre d'éléments qui peuvent traduire déjà des tendances. Je voulais déjà répondre à ce qui a été dit par Louis qui parle des inactifs et des jeunes candidats qui sont désinscrits de la plateforme. C'est vrai, les chiffres que tu évoques sont justes. Mais rappelons-nous, APB 2017, APB 2016, APB avant, le système avant APB aussi, chaque année, le nombre de jeunes qu'on considère comme inactifs existe. Entre la troisième phase d'APB en 2017 et la phase complémentaire, plus de 60 000 jeunes avaient disparu de la plateforme APB. Là, on les voit sur Parcoursup. Donc la seule différence, c'est qu'il y en a un petit peu moins, mais c'est qu'on les observe. C'est qu'on peut les quantifier de manière plus importante que sur APB.
Donc vous dites c'est pas encore parfait, mais c'est déjà mieux qu'avec APB.
Bien sûr, je vais y venir un peu plus tard dans mon raisonnement. Mais deuxième chose, les jeunes candidats qui sont désinscrits de la plateforme, 150 000 effectivement sur Parcoursup. Sur APB, 220 000 ont quitté la plateforme. 220 000, beaucoup plus que ceux de la plateforme Parcoursup. Donc c'est pas des choses qui sont nouvelles. Il y a des jeunes qui changent d'avis. Nous on traite au travers de notre plateforme sosparcoursup.fr à la FAGE. Des milliers de cas de défense qui nous contactent parce qu'ils sont en difficulté, ils ont besoin d'être accompagnés, ils ont besoin d'être aidés, d'être conseillés. Et on en a beaucoup qui se disent aussi, bah, au final, j'ai changé mon projet d'orientation et parmi les choix que j'ai formulés sur Parcoursup en mars, bah, j'ai envie de faire autre chose. Donc on les conseille d'aller voir la phase complémentaire. Donc il y a une pluralité de situations et je pense qu'il faut qu'on sorte un petit peu des caricatures parce que c'est un sujet qui est important. On a un défi de nation qui est celui d'affecter plus de 800 000 jeunes chaque année dans le supérieur. Je finirai juste sur un chiffre. Combien de jeunes ont reçu de propositions au final là sur Parcoursup? On est à plus de 580 000 contre 540 000 sur APB. Donc on a plus 40 000 jeunes qui ont reçu des propositions sur le nouveau système. C'est un léger mieux. Maintenant, encore une fois, il faut avoir l'intégralité des chiffres pour tirer un bilan exhaustif.
Alice Neff, est-ce que pour vous, les données quantitatives sont importantes pour mesurer l'efficacité ou l'inefficacité de ce système Parcoursup? Et comment est-ce que vous les lisez aujourd'hui? Parce qu'on voit bien que, à partir de chiffres bruts, mais c'est finalement assez régulièrement le cas, hein, il y a des interprétations qui peuvent être très différentes.
Alors, de fait, c'est toute la question. Je voudrais quand même rappeler que APB 2017, c'était dès le premier jour 61% des inscrits qui avaient obtenu leur premier vœu. Aujourd'hui, on est à 61% des inscrits qui ont accepté une affectation, ce qui ne veut pas dire leur premier vœu, en septembre.
Bah c'est d'autant moins leur premier vœu qu'il n'y a plus de hiérarchie des vœux.
Absolument. Sauf que, comme on le sait, cette hiérarchie des vœux, en fait, est connue des rectorats. Hein, mais bon, ça, c'est un autre problème. Mais n'est pas connue des universités, ce qui est une des demandes des universités. Donc, effectivement, on a l'impression d'un système qui est extrêmement, je sais pas comment dire, qui pousse le sadisme à une forme d'excès, puisque pour aboutir à des chiffres sensiblement égaux, on attend quelque chose comme 100 jours en souffrant tout l'été, etc. Je rebondis sur ce que vient de dire Jimmy Losfeld, qui me paraît tout à fait important. Des gens qui changent d'avis entre mars et septembre. Oui, ça n'est pas très étonnant. C'est-à-dire que avoir un avis éclairé aussi jeune, et dans le futur, ce sera de plus en plus problématique, puisque nous savons qu'il faudra prendre des options, etc., etc. Donc ça voudra dire qu'en gros, dès la fin de la troisième, la seconde, il faudra savoir ce qu'on veut faire. Là, la question se pose de manière extrêmement préoccupante, et je crois qu'on n'est pas du tout au bout des questions qui se posent et que les chiffres ne suffisent pas à régler la question.
François Battin.
Je crois surtout qu'il y a un chiffre qui n'a pas été donné. Hein. C'est-à-dire qu'il y a toujours une confusion dans le débat. On parle de Parcoursup, comme d'ailleurs auparavant d'APB, en parlant d'accès à l'université. Il ne s'agit pas de l'accès à l'université, il s'agit de l'accès à l'enseignement supérieur. Bon. Ce qu'il faut savoir, c'est que sur les 6 millions de vœux qui ont été émis, à peu près en moyenne 8 par candidat, 70% des vœux étaient pour des filières sélectives. 70%. Et quand on dit 70%, on ne compte pas dedans, je veux dire mes 30% restants, on ne compte pas la première année de médecine. Je veux dire, qui est complètement intégrée comme une filière sélective, on pourrait même ajouter la première année de droit. Autrement dit, globalement, effectivement, et c'est ça le cœur du problème, le nombre de vœux émis pour les filières universitaires classiques, il est absolument dérisoire. Et c'est ça le fond du problème dans lequel nous nous trouvons. C'est-à-dire que si...
C'est-à-dire qu'aujourd'hui, sur les filières universitaires classiques, il n'y a aucun problème. Si on veut s'y inscrire, il n'y a pas de problème de place.
Ça c'est clair. Non seulement, et comme je vous le disais, dans une UFR comme la mienne, il reste des places partout. Nous n'avons atteint nos capacités d'accueil nulle part. Mais j'entendais mon président dire l'autre jour qu'il n'y avait pratiquement pas eu de recours, alors qu'il y en avait eu effectivement sur APB en raison du dysfonctionnement technique du système. Mais globalement, dans l'université française, il y a des places, c'est absolument évident. Sauf quelques secteurs dits en tension.
Je suis allé sur le site de Parcoursup d'ailleurs cet après-midi. Alors j'ai fait un choix de manière totalement aléatoire. J'ai essayé de m'inscrire en droit à Paris. Je ne sais pas, c'est peut-être un mauvais exemple. Enfin, oui. En tout cas, c'est vrai qu'il y a des places. Évidemment, j'ai pas fait tous les choix pour vérifier ce qui était possible ou pas. Je vous voyais réagir Louis Boyard sur cette idée qu'il y a quand même suffisamment de places aujourd'hui, à l'université en tout cas, pour accueillir les étudiants qui souhaiteraient s'inscrire en première année.
Je vous avoue qu'en tant que lycéen, depuis que la plateforme a été lancée, j'ai entendu énormément de mensonges. Et là, ici, les trois plus grands mensonges ont été dits en face de nous. Le premier mensonge, c'était de dire que APB avait accueilli 40 000 lycéens de plus. Mais il faut regarder les chiffres, parce qu'on voit bien des gens parler de chiffres sans réellement les connaître. Il y avait 850 000 candidats avec APB. Il y en avait 810 000 sur Parcoursup. Ça veut dire que APB, Parcoursup, qui aurait accueilli 40 000 candidats en plus, a fait le même résultat qu'APB, avec 40 000 lycéens en moins. Donc finalement, dire que Parcoursup a mieux marché qu'APB en termes d'affectation, c'est un mensonge, parce qu'il faut partir sur deux chiffres qui sont les mêmes entre APB et Parcoursup, ce qui n'est pas vrai. Le deuxième mensonge...
Même si on n'a pas encore tout à fait les chiffres définitifs pour Parcoursup.
Les chiffres des candidats de Parcoursup sont 810 000, les chiffres des candidats à APB, c'est 850 000. Ces chiffres-là, on les connaissait dès le début. Le deuxième mensonge qui a été dit, c'était de dire que 70% des élèves avaient candidaté en filière sélective, ce qui est vrai, mais ce qu'il faut penser, c'est que les 30 autres pourcents, ce sont aussi des filières sélectives. Je vais vous donner un exemple. Moi-même, qui ai candidaté sur une faculté à Paris 1, j'étais 500e dans la file d'attente le 5 septembre. Ça veut dire que le 5 septembre, on m'a fermé ma file d'attente et que finalement, je n'ai pas eu ce vœu. Donc, dire que tout le monde aura une place à l'université et que si on candidate dans une filière non sélective, on aura son cursus, c'est un mensonge parce qu'on m'a refusé une université. La seule différence avec un refus immédiat, c'est que pendant 4 mois, j'ai été dans l'attente et dans l'espérance d'obtenir ce vœu. Ça, c'est un mensonge très grave. Et ensuite, le troisième mensonge, c'est de dire que tout s'est bien passé avec Parcoursup. Je suis lycéen. J'ai été devant les lycées et je vois, c'est tirer un bilan objectif et on peut regarder les communiqués de la FAGE et même tu as soutenu la réforme, Jimmy. On voit aujourd'hui des organisations qui parlent au nom des lycéennes et des lycéens alors qu'ils n'en sont pas. Il suffit d'aller devant les lycées pour voir que les lycéens aujourd'hui, ils ont peur. Et c'est une peur qu'il y a aujourd'hui devant Parcoursup. Et cette peur, elle est là parce que on ne sait pas dans quelle université on va pouvoir aller. On a conscience que c'est des portes de notre avenir qui va être fermées et les organisations qui ont soutenu Parcoursup, elles en sont responsables et la tienne comprise, Jimmy.
Alors évidemment, tout le monde a envie de réagir. Alors je vais essayer de conserver peut-être un ordre. Jimmy Losfeld, puisqu'en plus vous l'interpellez, oui. Louis Boyard. Jimmy Losfeld,
tout à fait. Bon, président encore une de la fois, FAGE. On a du mal à sortir la caricature, mais c'est pas très grave. Déjà, la FAGE, elle est universaliste. On n'a pas besoin d'être lycéen pour parler pour le système Parcoursup qui concerne pas seulement les lycéens, mais notre société par ailleurs.
En fait.
Mais c'est ton avis, Louis. C'est ton avis.
Alors on va laisser répondre Jimmy Losfeld.
C'est ton avis, mais c'est important qu'on ait un débat pluriel. Et par ailleurs, l'UNL, que je sache, n'a pas le monopole sur la vie et l'expression démocratique des lycéens.
Je vais vous laisser répondre sur tout, Jimmy Losfeld, mais sur un des points qu'a évoqué notamment Louis Boyard, j'aimerais bien avoir votre avis sur effectivement la durée du processus. C'est-à-dire ce qui même si à l'arrivée, on a peut-être des chiffres alors qui sont plus ou moins comparables avec ceux qui étaient ceux d'APB, mais c'est vrai que ça a peut-être quand même été plus long et donc beaucoup plus stressant pour des étudiants. Est-ce que ça, c'était une forme de dysfonctionnement du système Parcoursup ou bien est-ce que c'était inscrit là-dedans, c'est-à-dire à partir du moment où il n'y a pas de hiérarchisation, où on peut attendre un petit peu avant de savoir quelle est, par exemple, la formation qu'on va choisir, ça oui. fait forcément attendre tous ceux qui n'ont pas de réponse favorable, disons.
Osons introduire un petit peu de nuance dans le sujet, parce que non, tout ne s'est pas bien passé sur Parcoursup. Il y a des éléments effectivement qui sont plutôt négatifs, et la FAGE dans ses communiqués l'a rappelé. Mais il y a des éléments aussi importants qui sont des avancées qu'il faut souligner. Mais on n'est pas sur une expertise manichéenne où ce serait absolument Parcoursup serait le diable, ou au contraire serait la solution à tous nos problèmes. Non. Et c'est certainement pas un an qu'on va trouver une solution aux difficultés qu'on a dans l'accès à l'enseignement supérieur. Oui, de l'attente, il y en a eu, peut-être plus que sur APB. La réalité, c'est que, in fine, on a plus de candidats qui ont reçu des propositions. Alors, tu parlais effectivement de la différence entre le nombre de candidats de Parcoursup et d'APB. Oui, mais rappelons-nous aussi que sur APB, puis je reviendrai sur votre question après, sur APB, un tiers des candidats qui avaient reçu des vœux ont au final refusé leur proposition. Un tiers. C'est la raison pour laquelle, par ailleurs, la non-hiérarchisation des vœux permettait justement de mûrir son choix entre mars et l'été, et éventuellement de prendre nos décisions parmi tous les vœux qu'on a formulés. La hiérarchisation, elle imposait le choix qu'on a fait en mars, et si, et on a eu beaucoup de jeunes qui nous ont contacté dans ce cas-là, on change d'avis avec le bac, avec les résultats qu'on a au bac ou avant, eh bien on ne pouvait pas le faire avant, on peut le faire maintenant. Donc c'est une avancée, mais c'est ce qu'on a appelé le dernier mot au bachelier, donc la possibilité pour le bachelier de décider lui-même, pendant l'été, de son affectation, et pas de laisser ça à un algorithme. Elle a un coût, et ce coût, effectivement, c'est que ça augmente la tension artificielle dans les formations, c'est parce que tout le monde formule plusieurs vœux et il n'y a plus d'hiérarchisation, donc d'un point de vue algorithmique, ça provoque un petit peu d'attente.
Mais c'est quand même mieux que de mettre une hiérarchisation a priori, c'est-à-dire
c'est
au tout début.
C'est le bilan qu'il faudra tirer. Je ne sais pas, je ne peux pas répondre à votre question. Moi, je sais que la non-hiérarchisation, elle a un avantage extrêmement important, mais elle a cet inconvénient-là. Maintenant, encore une fois, on a ce défi d'affecter plus de 800 000 jeunes chaque année en quelques mois, avec au milieu le baccalauréat. Forcément, c'est stressant. Ben, je veux dire, une affectation ou une demande de formation dans le supérieur qui n'est pas stressante, il y aurait un problème. Maintenant, encore une fois, il faut regarder au-delà des chiffres qu'on a évoqués sur la quantité de candidats qui ont reçu des propositions, sur la qualité aussi, parce que le vrai problème qu'on a dans le supérieur et depuis des années, c'est une ségrégation sociale et territoriale qui s'exerce sur les néo-bacheliers. Et ça, c'est l'élément qui me semble central à analyser dans Parcoursup.
Alors justement, on va y arriver sur cette question de la ségrégation, parce qu'il y a notamment d'ailleurs le défenseur des droits qui a été saisi sur ce sujet par le président du Conseil général de Seine-Saint-Denis. Anne-Lise Neff, pour revenir peut-être alors justement à cette question de la hiérarchisation et de la non-hiérarchisation d'ailleurs, et si on se place du point de vue des élèves, du temps peut-être supplémentaire que ça leur a donné pour finalement choisir leur affectation. Est-ce que ça n'est pas plutôt une bonne nouvelle au regard justement des hésitations qui peuvent être celles des lycéens au moment d'avoir le bac ?
Oui, il me semble qu'au contraire, on a fait dysfonctionner un système qui dysfonctionnait, comme l'a rappelé d'ailleurs Monsieur Vatin, de manière extrêmement minoritaire. C'est-à-dire qu'en gros, il y avait 92 formations sur quelques 12 700 qui dysfonctionnaient vraiment. Le tirage au sort était rendu illégal depuis décembre 2017. Donc il ne s'agissait plus de régler ce problème-là. Et on a créé en fait un système qui relance en quelque sorte les difficultés. Donc ça, c'est la première question. Et de fait, il me semble qu'on a pris comme cadre de réflexion un certain nombre de filières, plus l'Île-de-France. C'est-à-dire que, par exemple, si on regarde, il y a 6 universités, ce qu'on n'a pas assez répété, ce que, à mon avis, les journalistes auraient dû plus analyser, qui ont accepté de classer, il y a en plus des formations, mais 6 universités qui ont accepté de classer tous les étudiants en leur disant oui à tous. Ben, il n'y a eu aucun problème dans ces universités.
Je comprends pas. Ils ne les ont pas classés, du coup.
Ils n'ont pas classé.
D'accord. Et
donc... Bordeaux-Montaigne, par exemple, ex-Bordeaux 3, que pour le coup, je connais bien, il n'y a aucun problème.
Parce que classer dans les formations qui ne sont pas en tension, ça n'a pas de sens.
Oui, mais je crois que c'est pour ça.
Oui, mais alors pourquoi ? Alors, je suis parfaitement d'accord, mais alors pourquoi mettre tout le système en tension alors que ça n'était pas nécessaire.
Avant de repasser la parole à François Vatin, pour bien comprendre, est-ce que vous, dans votre pratique personnelle, puisque je crois que vous êtes retrouvé, hein, comme un certain nombre, bien sûr, d'enseignants, vous êtes retrouvé dans des comités de, alors je sais pas comment vous dire, de sélection. Non, pas du tout.
Alors,
comment est-ce que vous avez procédé, vous ? Est-ce que vous, là aussi, vous, quand vous êtes retrouvé face à des candidatures, vous avez dit oui à tout le monde ?
Alors ça, c'est parce que vous pensez que les comités de sélection ou les comités de sélection étaient ouverts à tous. C'est pas exactement comme ça que ça s'est passé. Hein. Ils ont été gentiment captés par un certain nombre de personnes, la plupart du temps, qui ont fait ça entre eux. En réalité, et notamment qui ont réglé la question de savoir comment on départageait les ex-échos qui étaient créés par les algorithmes. Et là, c'est absolument opaque.
Vous n'y étiez pas dans ces comités.
Autant sur le reste, on a été un peu informés, et encore, je n'ai toujours pas les chiffres, par exemple, de mon UFR, mais ça a été extrêmement opaque. Et pourquoi ça a été extrêmement opaque ? Et je crois qu'il faut quand même le répéter, c'est parce que contrairement à ce qu'on nous a suriné tout l'été, il n'est pas vrai que tous les dossiers ont été regardés de près et qu'on a fait attention aux critères. Ce n'est pas vrai. Les élèves ont écrit, futurs étudiants, des CV pour rien. Et la manière dont ils ont été retenus ou non, il y a eu un certain nombre de dysfonctionnements qui ont été pointés du doigt, est absolument scandaleux.
Est-ce qu'on en sait assez aujourd'hui, François Vatin, pour connaître les critères de sélection, justement, des candidats ?
Oui, mais ne parlons peut-être pas de sélection. Je crois qu'il faut. Il faut être clair sur un plan juridique et comprendre de quoi il s'agit et pourquoi la loi ORE par rapport à ce qui se passait avant. En gros, on a une contradiction dans les textes depuis la loi Savary entre, d'un côté, le droit qui est donné à tout étudiant de s'inscrire à l'université et, de l'autre côté, le droit qu'a tout établissement de définir ses capacités d'accueil filière par filière. La contradiction entre ces deux règles a été résolue techniquement par le système APB, par des dispositifs qui se sont révélés contraires à la loi sanctionnée par le Conseil d'État, par série de bricolage et in fine la technique du tirage au sort quand on ne pouvait pas faire autrement. Donc il y avait absolument une nécessité de mettre un terme à cette confusion juridique. La loi ORE, pour la première fois, instaure la notion de sélection, figure dans les textes, qui n'avait jamais été mis. Elle figure dans les textes pourquoi ? Précisément pour distinguer l'université des filières sélectives, y compris les BTS qui sont définis comme des filières sélectives. Les filières universitaires sont définies comme non sélectives. Je vous dis ça d'autant plus que moi je serais favorable à l'instauration de la sélection à travers l'université. Donc là je suis simplement en train de vous faire du droit. Donc on a mis en place cette distinction très claire entre filières sélectives et filières non sélectives, ce qui se traduit par le fait que les universités, à la différence de ce qui se passe dans les IUT, les BTS et ailleurs, les universités n'avaient pas le droit de dire non. Aucun dossier ne pouvait être refusé.
Mais dans ce cas, ça sert à quoi Parcoursup
alors ? Attendez, je vais jusqu'au bout. Si on a eu 30 000 au départ, 30 000 candidats qui ont eu des noms partout, c'était des candidats qui n'avaient candidaté qu'à des filières sélectives. Ils ne pouvaient pas avoir un nom en ayant candidaté dans une université. Ce qui a été offert aux universités, c'est au lieu de devoir, in fine, soit ne pas respecter la loi en sélectionnant de façon clandestine, ce qui se faisait, soit en tirant au sort, de pouvoir hiérarchiser de façon à ce que, effectivement, le choix ne se fasse pas sur l'arbitraire. Mais ce droit qui a été donné aux universités, il est virtuel, sauf dans les filières en tension. C'est-à-dire qu'effectivement, pour 80% des filières universitaires, cette sélection n'a absolument pas cours. Elle n'a cours que là où elle avait cours avant. C'est-à-dire dans les grandes facultés de droit parisiennes ou dans les filières STAPS qui étaient en tension. Ailleurs, rien n'a changé de ce point de vue-là. Il faut clairement le rappeler.
Alors évoquons justement ces filières en tension et cette question de la hiérarchisation, pas seulement la hiérarchisation des choix, hein, qui n'existe pas dans le cas de Parcoursup quand on est candidat, mais la hiérarchisation par les établissements d'accueil. Et je rappelle que nous sommes en compagnie de Jimmy Losfeld qui préside l'AFAGE, de François Vatin qui est membre du comité de suivi de la loi OR, d'Alice Neff qui est maître de conférence à Paris 1 Panthéon-Sorbonne et Louis Boyard, président de l'Union nationale lycéenne, sur cette question justement de la hiérarchisation. Un des reproches qui avait été fait au tout début du dispositif de Parcoursup, c'était de dire, Louis Boyard, que ce dispositif allait accentuer la ségrégation scolaire, c'est-à-dire que, en gros, les élèves qui seraient issus d'établissements mal cotés seraient davantage en difficulté parce que refusés et que les établissements de l'enseignement supérieur privilégieraient les bons lycées. Est-ce que ça, c'est quelque chose que vous avez pu observer durant ces derniers mois ?
Eh bien, malheureusement, non. Pourquoi ? Parce qu'on ne sait pas comment est faite la sélection aujourd'hui. Il y a le gouvernement qui a publié les algorithmes nationaux, mais en réalité, ce sont des algorithmes locaux. Ce sont les universités qui déterminent sur quels critères ils vont sélectionner. Elles vont sélectionner. Ce sont les algorithmes locaux qui font ce choix-là. Or, aujourd'hui, on ne sait toujours pas ce qu'il y a dans ces algorithmes locaux. Nous, à l'UNL, avec d'autres organisations, on a saisi le défenseur des droits pour savoir ce qu'il y a dans ces algorithmes locaux, et le gouvernement refuse toujours de nous les communiquer. Ça veut dire qu'aujourd'hui, un élève qui s'inscrit sur une université ne sait pas pourquoi il sera refusé, ne sait pas quels critères il doit avoir pour pouvoir y entrer, ce qui est en plus d'être profondément hypocrite et profondément malsain pour les élèves.
Mais est-ce que de manière empirique, vous avez pu constater, puisque j'évoquais tout à l'heure le fait que le défenseur des droits a été saisi de cette question, est-ce que de manière empirique, vous avez pu constater le cas d'élèves qui, parce que leur lycée était moins bien coté, recevaient des réponses négatives, ou en tout cas des oui.
On l'a constaté, oui. On le constate, par exemple, ces histoires de secteur, de faculté de secteur. Un lycéen parisien aura un meilleur accès aux universités parisiennes et ça se voit à l'œil nu. C'est pas un hasard si l'une des classes qui s'est retrouvée à 100% en attente, c'était une classe de bachelier professionnel en Seine-Saint-Denis. C'est pour montrer sur quoi sont faits les critères de sélection. Et on est en train de dire que la non-hiérarchisation des vœux a résolu tous les problèmes. Mais si jamais c'est pas l'élève qui choisit sa faculté, qu'est-ce qu'il choisit ? C'est la faculté. Aujourd'hui, c'est plus la faculté le produit, c'est l'élève. Les élèves sont devenus des produits marchands. Pourquoi ? Parce que en instaurant la sélection généralisée, ce sera le point où j'en reviendrai, où je passerai après, en passant ce truc-là, on est en train de dire que certains élèves méritent d'entrer dans telles universités qui sont mieux financées. Ça veut dire tel élève mérite qu'on finance ses études à telle hauteur et d'autres non. Donc c'est une sélection sociale qui est faite. Et ensuite, je passerai à un autre point. Aujourd'hui, toutes les filières sont en tension. Si jamais on se retrouve aujourd'hui à avoir des élèves qui sont en attente, c'est parce que toutes les filières sont en tension. Pour choisir qui est en oui si ou qui est en oui non, on sélectionne les dossiers. Il reste des places en LV1 breton, mais certaines personnes n'ont pas envie d'y aller. On trouve pas une affectation comme on trouve un travail dans la rue pour parler comme Emmanuel Macron.
Oui, attendez, excusez-moi.
François Vatin.
Encore une fois, tout ça n'est pas nouveau. Les BTS, les DUT, les classes préparatoires ont toujours sélectionné selon leurs propres critères sans qu'on leur pose la question et qu'on fasse appel aux défenseurs des droits. C'est comme si tout d'un coup, le fait que les cursus universitaires avaient eux-mêmes le droit de hiérarchiser leur public, qui devenait un problème. Alors par rapport à ça et aux questions de ségrégation spatiale, le problème c'est que c'est totalement contradictoire. Quand on parle d'égalité, il s'agit de savoir dans quelle situation, de quel point de vue on se présente. C'est-à-dire que vous avez eu une polémique que vous avez dû suivre au printemps des chimistes de Paris 7, qui se sont plaints de la détérioration de la qualité de leur public parce que les bons étudiants de banlieue ne pouvaient plus venir parce que on avait mis en place ces fameux quotas. Ces quotas de maximum d'extérieur et de minimum de boursier, ils ont été mis en place par le ministère à la demande des universités périphériques pour éviter l'hémorragie du public vers l'université du centre. Bon. Et donc, au moment où on met en place un système de régulation, effectivement, on se plaint en disant « quel scandale, on empêche les étudiants de banlieue de s'inscrire dans le centre parisien ». Alors que globalement, le système, pour le meilleur ou pour le pire, a conduit à supprimer très largement cette sectorisation et à augmenter le nombre d'étudiants de banlieue qui ont reçu une place, qui ont une proposition dans le centre parisien. Donc, le point de vue, il est très différent. Moi, comme professeur à Nanterre, j'ai toute raison de me plaindre de la suppression de la sectorisation qui permet aux universités du centre parisien de siphonner le public qui autrefois allait à Nanterre. Mais du point de vue du public, c'est considéré comme un progrès de pouvoir s'inscrire dans les universités du centre parisien. Donc où est la justice là-dedans? C'est pas forcément clair.
C'est d'ailleurs le bilan que vous faites à la FAGE, hein, Jimmy Losfeld, enfin avec d'autres mots, mais vous dites ceci notamment dans votre dernier communiqué: la fin de la priorité académique et l'instauration de quotas mobilité a permis de favoriser la mixité, notamment à Paris.
Mais bien sûr, parce que là on parle de plein de choses, mais c'est intéressant qu'on puisse se concentrer un petit peu sur le réel et sur les quelques chiffres qu'on a. Et aujourd'hui, en parlant notamment des jeunes issus de l'Académie de Créteil, qui ont souhaité s'inscrire dans des universités intramuros, eh bien on a une progression de 43% de candidats issus de Créteil qui vont pouvoir s'inscrire dans une université parisienne, contre 26% sous APB 2017. Mais on va plus loin, il y a une progression aussi dans la démocratisation de l'accès à l'enseignement supérieur pour les bacheliers pro et techno, qui sont ceux qui étaient le plus victimes de ségrégation sociale, parce qu'on sait que ce sont des jeunes essentiellement issus des milieux populaires. Quand on regarde les chiffres de l'INSEE, et ben là on a 65% des bacs professionnels qui ont pu s'inscrire en STS, contre 53% il y a un an, 21% des bacheliers technologiques qui vont pouvoir s'inscrire en IUT, contre 12% il y a un an. On voit qu'il y a clairement une progression là aussi d'une démocratisation non ségrégative.
Et ça, c'est lié à quoi, enfin, selon vous? C'est-à-dire, est-ce que c'est inscrit, disons, dans Parcoursup, ou bien est-ce que c'est lié au comité de sélection qui, au cas par cas, ont peut-être voulu finalement faire l'inverse de ce qui est craint, c'est-à-dire
non,
favoriser
c'est l'introduction,
des élèves.
Parce que contrairement à ce qu'a dit, Louis Boyard, c'est qu'on a, au-delà du module d'aide à la décision qui doit être rendu public, et nous on milite à la FAGE effectivement pour que ce soit publié, ces éléments-là, il y a l'algorithme national qui prend le pas sur un certain nombre d'éléments, notamment sur la diminution des quotas de boursiers, des quotas de mobilité, et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui on a un peu plus de justice sociale dans l'enseignement supérieur. Mais on comprend bien qu'on a un système éducatif qui est profondément inégalitaire. Et l'université, l'enseignement supérieur, il paye aussi les écueils de notre système éducatif. Donc là, on vient corriger, j'ai envie de dire, de manière significative, mais pas totalement le problème. Mais par contre, il faut qu'on ressorte, juste prendre un petit peu d'auteur par rapport à ce sujet-là, parce que le sujet de l'égalité des chances, enfin, aujourd'hui, on a les chiffres, on voit qu'on fait mieux avec Parcoursup sur ce sujet-là. Par contre, maintenant, encore une fois, Parcoursup, c'est quoi? C'est une plateforme d'affectation. Parcoursup n'introduit pas de sélection dans les formations universitaires non sélectives. La preuve, c'est qu'il reste des places, et pas seulement dans la LV1 breton de Brest, et que aujourd'hui, il y a autant de sélection dans les formations non sélectives qu'il y en avait il y a un an. La sélection par manque de place, matérialisée par le tirage au sort, qui existe depuis des années, parce qu'avant APB, c'était premier arrivé, premier servi. Donc cette sélection, elle est marginale, elle a toujours existé, il faut la combattre en créant des places. On s'est battu, on a négocié, on a obtenu 31 000 places supplémentaires. Maintenant, on ne va pas découvrir maintenant qu'effectivement, on a 40% de formation sélective dans l'enseignement supérieur. 40%. Et le vrai scandale, c'est que les jeunes qui sont acceptés dans les formations sélectives, eh bien l'État investit plus pour eux que ceux qui vont dans les formations non sélectives. Le vrai sujet, il est là, c'est qu'il y a un traitement inégal entre les formations, raison pour laquelle aujourd'hui on a interpellé, nous, et pas seulement, le SGEN-CFDT et d'autres syndicats dans le supérieur, le ministère, pour faire en sorte de prendre à bras-le-corps ce sujet qui est l'inégalité de traitement en fonction de l'établissement qui accueille, et notamment la dichotomie entre les formations sélectives et non sélectives.
Analyse Nef.
Je rappelle quand même que le taux de boursier qui a été décidé pour chaque université est quand même assez distinct. Pour Paris 13, donc Villetaneuse, Bobigny, on est à 18%. Pour Paris 1, Panthéon-Sorbonne, je me parle d'autant plus tranquillement que j'y suis, 2%. Donc on peut pas dire que ça pousse vraiment à la diversité sociale. Mais je dirais que en parlant ainsi, on oublie une chose. On oublie une chose qui est l'autocensure des élèves. Et celle-là, vous aurez bien du mal à la calculer. Ce que l'on ne fait pas aujourd'hui, c'est, et à mon avis c'est un tort, contrairement à ce que dit le ministère, de mettre en place une orientation active. C'est-à-dire au sein de laquelle les élèves, futurs étudiants, seraient vraiment partie prenante. Ça ne dépend pas d'eux. Et là, je ne peux qu'être d'accord avec Louis Boyard. Ce ne sont pas eux qui décident. Ce sont les formations qui décident. La non-hiérarchisation des vœux, de ce point de vue, n'est pas une aide.
Bah alors c'est pas tout à fait ce que dit justement Frédéric Vidal, la ministre de l'Enseignement supérieur.
Ça m'étonne pas.
La non-hiérarchisation, justement, ça permet de lutter contre ce phénomène d'autocensure. C'est-à-dire, plutôt que de mettre en dernière position, par exemple, un établissement prestigieux, en le mettant parmi d'autres établissements,
vous avez vous-même dit tout à l'heure que c'était normal que des jeunes voulaient changer d'avis ou maturer leur choix entre mars et l'été. Mais la hiérarchisation des vœux, elle empêche de changer d'avis.
Ils peuvent changer d'avis, mais on peut se demander, et c'était déjà le cas sur APB, combien de vœux on peut avoir ? Combien de choses pouvez-vous vouloir en tant, combien de formations pouvez-vous désirer en tant que lycéen ? 10, je ne le crois pas. Pas 10 au même niveau. Donc c'est exactement la même question. J'ai l'impression que ça fait légèrement écho à ce qu'on a entendu récemment. Vous ne pouvez pas être jardinier, faites donc de la restauration. C'est un peu ça. C'est-à-dire, faites le plus de demandes possible. Si on n'arrive pas à vous placer, on vous proposera autre chose. Et cette autre chose, eh bien, il faudra bien que vous vous en contentiez. Ce n'est pas possible de fonctionner ainsi.
On peut être refusé le 5 septembre si on a déjà été en file d'attente. Il faut arrêter de mentir. C'est arrivé, c'est un cas qui est général. 90 000 élèves ont été concernés par ce sujet.
Mais alors, comment vous expliquez les chiffres que je viens de donner, le fait qu'on ait une progression en termes de propositions et qu'il reste encore des places ? C'est incohérent.
Il reste des places que les étudiants ne veulent pas. Ce n'est pas parce qu'il y a des places qu'ils veulent y aller.
C'est exactement. Dans les facs de droit parisien.
Je répète, comme le paysagiste qui ne veut pas faire restauration. Il y a des places en restauration. C'est vrai.
Je vous rappelle le chiffre de base dont on ne veut pas discuter. 70% des demandes ont été pour des filières sélectives. Voilà. Autrement dit, non mais faut être clair. Autrement dit, le fond du problème, c'est le désaveu massif à tort ou à raison. Pour les études universitaires. C'est ce qu'on dit dans tous les lycées, comme vous le savez. Je veux dire, vous allez à la fac si vraiment vous pouvez rien faire d'autre. Donc, le fond du problème, il est celui-là. On va pas en discuter aujourd'hui. J'aimerais peut-être qu'un jour, on me réinvite pour effectivement en discuter, car c'est ça le fond du problème. Et Parcoursup n'invente pas ce problème. Simplement, effectivement, il le révèle cruellement. Voilà.
Dans ce cas-là, ça veut dire que n'importe quel dispositif qu'on imaginera... posera toujours problème tant qu'il y aura ce deux poids deux mesures dans l'enseignement supérieur. Donc soit il faut passer à une sélection partout, soit une sélection nulle part.
Oui, mais...
Comment vous expliquez les classes préparatoires pas remplies ?
Vous plaignez les classes préparatoires.
On me dit que c'est parce que tout le monde demande des endroits sélectifs.
29% en plus dans les classes préparatoires.
Comment
parce qu'on a un algorithme nouveau aujourd'hui, on impose aux prépas, on leur tord le bras, le ministère leur tord le bras, l'algorithme de Parcoursup, notamment sur les codes boursiers. 29% de boursiers en plus dans des formations qui sont élitistes.
Jimmy Losfeld vient de répondre, François Vatin et ensuite Louis Boyard.
Les classes préparatoires finiront par être remplies. Je voulais simplement revenir sur la
discussion. Tout finira par être rempli.
Non, je voulais simplement revenir sur la discussion de tout à l'heure pour montrer qu'on est tout le temps en train de parler en termes de justice et d'équité et que ça n'a rien d'évident. C'est-à-dire, est-ce qu'il est plus juste de permettre aux étudiants issus de la banlieue de rejoindre les universités de centre parisien au risque de déstabiliser complètement les universités circumparisiennes, ou est-ce qu'il est plus juste d'avoir un système de sectorisation de façon à ce que toutes les universités soient à peu près équivalentes en termes de structuration de leur public ? Il n'y a pas de réponse simple à ça.
Louis Boyard, qu'est-ce que ce serait justement un système qui aurait été le plus juste possible ? C'est un système où quoi ? Où toutes les demandes peuvent être satisfaites, point ?
Et c'est possible. J'en entends parler du tirage au sort. D'ailleurs, le tirage au sort, c'est les personnes qui sont actuellement au pouvoir en sont largement responsables. Je rappelle que Emmanuel Macron était ministre de l'économie à l'époque où ça avait lieu. Aujourd'hui, on met en place la sélection alors que le tirage au sort était très minoritaire. La sélection existe toujours. En réalité, le problème, c'est un problème de financement. On est en train de dire, regardez, personne ne veut aller dans les facs de banlieue, mais alors par contre, tout le monde veut aller à Paris 1. Pourquoi ? Parce qu'on peut regarder que Paris 1 a des bien meilleurs financements. Paris 1 est une université bien mieux huppée, mais bien sûr que si.
Absolument pas. Ce n'est pas les conditions matérielles de travail.
Mais alors qu'on n'aille pas me faire croire qu'on est tous égaux devant les diplômes. Quand on vient d'un lycée de banlieue, aujourd'hui, on n'est pas égal. Oui, il y a peut-être des gens qui ont été acceptés à Créteil, mais c'est les meilleurs lycées de Créteil qui ont été pris. Et on entend des gens qui ne sont plus allés dans des lycées depuis au moins 20 ou 30 ans. Moi, je suis lycéen. Moi, je viens des lycées qui a été dans la galère. Mes amis à côté, eux, ils ont que eu des facs de banlieue. Ils n'ont pas eu les facs parisiennes. Alors certes, dans les meilleurs lycées de Créteil, peut-être qu'ils les ont eu, mais la sélection sociale, elle existe. Le vrai fond du problème, c'est qu'il manque de place à l'université. Il faut ouvrir des places à l'université.
Je vous garantis que vous auriez de bien meilleures conditions de travail à Nanterre qu'à Paris 1 ou Paris 4. Le problème n'est pas là. C'est pas ça qui fait l'attraction des universités.
15 secondes chacun. Kimi Losfeld et Annelies Neff.
Pour prendre de la hauteur sur le sujet, parce que au final, effectivement, il y a un peu plus de justice sociale. On attend les chiffres pour tirer le bilan de Parcoursup. Mais pour répondre à votre question initiale, qui était du coup à quoi servit Parcoursup, je tiens à rappeler une chose fondamentale, c'est que Parcoursup, c'est un élément dans une plus grande réforme, le plan étudiant qui renforce l'orientation au lycée, qui renforce la réussite en licence, qui apporte, c'est l'articulation moins 3 plus 3, et c'est ça qui est important, pas que Parcoursup.
Et le dernier mot à Annelies Neff, dernier mot provisoire, bien sûr, vu le débat.
Alors effectivement, je voudrais quand même insister sur le fait que un des buts d'une bonne orientation serait de redonner de l'ambition à ceux qui s'autocensurent, ce qui n'est absolument pas le cas. Ça, c'est un premier point. Et le deuxième point, pour rebondir sur ce que vient de dire Jimmy Losfeld, si ce qui est prévu aujourd'hui par la nouvelle licence pouvait satisfaire et remédier au problème, on en serait bien heureux, mais ça n'est pas du tout le cas.
Que de sujets de débat à venir à travers cette discussion. Merci beaucoup, en tout cas à tous les quatre, d'y avoir participé. Louis Boyard, Anne-Lise Neff, François Vatin et Jimmy Losfeld. Émission que vous pouvez réécouter sur franceculture.fr à la page du Grain à Moudre.